Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadin. Bonne écoute et bon limoud.
Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très métaphysique, de très profond, de très philosophique. Donc ceux qui n'aiment pas trop ça, qu'ils éteignent le cours. Donc, la grande question, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Et surtout, comment comprendre ce que la Torah dit de Dieu. Quand on dit que Dieu a voulu créer le monde, c'est déjà une aberration métaphysique. Puisque Dieu n'a pas une volonté comme nous. Puisque notre volonté, c'est toujours de répondre à un manque. Or, Dieu, il ne manque rien. Donc, comment ça se fait qu'il a voulu quelque chose? Quand Dieu dit qu'il se met en colère parce qu'il n'est pas content qu'on n'a pas fait ses mitzvot, ça aussi, ça, d'un point de vue métaphysique, ça ne veut rien dire. Dieu n'a pas de sentiment, n'a pas d'émotion. C'est humain, l'émotion. Et quand Dieu en dit qu'il désire que tu fasses le bien, le désir, étymologiquement, c'est le manque de l'étoile. C'est-à-dire qu'il te manque quelque chose, donc tu désires pour combler un manque. Tout ça n'existe pas au niveau de Dieu. Ce sont des apories extraordinaires. Des difficultés terribles d'un point de vue métaphysique. Puisque, en réalité, dès qu'on projette une psychologie humaine sur Dieu, on se trompe. Or, toute la Torah nous parle d'une relation avec Dieu qui est liée à la psychologie humaine. Amour, trahison, désir de lui faire, de contenter ce qu'il veut, l'aimer, être aimé par lui. Donc, il y a quelque chose qui cloche. En d'autres termes, comment peut-on poser d'un côté le côté absolument transcendant de Dieu, tout en n'abandonnant pas l'idée d'une relation à Dieu? Je donne un exemple. Vous savez que Aristote et Maïmonide, c'est à Maïmonide qu'il y a Aristote, Maïmonide, Rambam, amène Aristote, qui veut prouver que le monde était éternel dans le passé. Et il dit, c'est sûr que le monde était éternel dans le passé, qu'il n'y a pas de création, parce que si c'est une bonne idée pour Dieu de créer le monde, Dieu il change pas d'avis. Non, ça a toujours été une bonne idée. Et donc, cette idée, elle a toujours eu lieu, donc elle est éternelle, donc il n'y a pas de début. Alors, Rambam, il se casse la tête sur cette question. Maïmonide, il se dit, mais c'est une question terrible. C'est une question absolue, c'est tellement vrai, tellement fort, comment je vais répondre à ça? Et il répond de façon géniale. Maïmonide dit, non, tout ça c'est vrai dans d'autres mondes, nous. Tu prends un bébé dans le ventre, comme ça, il donne comme exemple. Un bébé dans le ventre de sa mère, il imagine impossible une vie hors le cordon ombilical, l'eau. Si on lui dit qu'on peut vivre sans ce cordon ombilical, où il n'y a pas d'eau, il dirait t'es fou. Il vit dans un monde, avec ses propres logiques. Eh ben, quand Aristote raisonne dans le monde, c'est très grec, il raisonne dans le monde fermé sur lui-même. Dans le monde fermé sur lui-même, effectivement, c'est logique de dire que si Dieu a une bonne idée de créer le monde, elle est éternelle, donc il n'y a pas de début, puisque cette idée a toujours été bonne, donc éternellement bonne, donc sans début. D'accord. Mais ça, c'est dans le monde de la création. Mais si tu sors du monde de la création, il n'y a plus de temps. Et on va répondre, oui, Dieu a éternellement pensé que c'était une belle idée de créer le monde. Il a créé le monde éternellement, mais il l'a créé parce qu'avant qu'il ait créé, il n'y avait pas de temps, et ça ne veut rien dire chez Dieu que le temps y passe. Génial! Réponse de Maïmonide. Au point que Lévinas a dit, là est née la philosophie juive, la rupture avec la pensée grecque. Il a considéré cette réponse de Maïmonide comme un miracle. Très bien. Mais ça ne résout pas notre problème. Donc Dieu est au-delà de l'être, bien entendu. Dieu est absolument transcendant, bien entendu. Dieu, la théologie négative lui dit, tu ne peux pas comprendre Dieu positivement. Tu peux savoir qu'il n'a pas un corps. Tu peux savoir qu'il n'est pas fini. Tu peux savoir qu'il n'est pas mortel, qu'il est immortel. Tout par le négatif, très bien, mais tu ne peux jamais savoir ce qu'il est. Très bien. Mais, et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que je ne peux jamais savoir qui il est. Donc, quelle relation j'ai avec lui? Pire que ça, regardez jusqu'à où ça va. C'est pour moi, le mystère le plus profond, peut-être, de toute la Torah. On te demande, alpi alacha, de ne jamais représenter Dieu. Dieu préserve. Dieu est infiniment transcendant, donc il échappe à toute représentation physique. Donc, tu ne peux jamais connaître positivement Dieu. Et si tu essaies de connaître positivement, tu fais de l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est, en réalité, l'idolâtrie est une réponse à ce vertige. On veut incarner Dieu parce que sinon je ne le vois pas. Une fois j'étais à Shar Yafo, à la porte de Jaffa à Jérusalem, je revois un ancien ami à moi qui était à la Yeshiva, et je le vois sans kippa. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as ? Il me répond, c'est incroyable, c'est un Israélien, c'est très rare. Il me dit, je suis devenu chrétien. Je lui dis, t'es fou ? Il me dit, non. Il me dit, parce que j'aime beaucoup cette idée que Dieu s'est incarné, et donc si un homme aime les poissons, c'est ce qu'il me dit, hein, et qu'il a tous les pouvoirs, il va se transformer en poisson pour nager avec les poissons. Et ben voilà, c'est ça qui me convient. Et je l'ai répondu très... Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est redevenu religieux, je ne crois pas du tout que c'est grâce à moi, mais peut-être il a eu un petit choc quand même. Je dis, c'est exactement ça, l'idolâtrie. La Avodazara, c'est bidur bachtormer achat. C'est bidur Avodazara. La Avodazara, c'est de dire, j'ai besoin d'une relation physique avec le divin. Ça veut dire que tu réduis Dieu au physique et tu réduis l'homme à une perception physique, alors que tout le secret de la relation entre le peuple d'Israël et Dieu, c'est quelque chose qui excelle la physique et c'est ça le miracle de l'élection. Si tu as besoin d'une incarnation, ça veut dire que tu es dans le paganisme. Alors d'accord, c'est vrai. Je préserve l'idolâtrie. Il y a deux ou trois attitudes qui ne sont pas les bonnes. Il y a l'idolâtrie qui essaie d'incarner Dieu, Dieu préserve. Il y a ceux qui disent non, tout est Dieu, donc je suis moi aussi Dieu, Dieu préserve. C'est peut-être pire encore, une sorte de panthéisme. Il y a, après moins grave, mais aussi très embêtant, de dire, comme le professeur Leibovitch, Dieu est tellement haut qu'on n'a aucune relation avec lui. Aucune. N'espérez pas de relation avec lui. Simplement, fais la loi, le yéké absolu, le Dieu te dit de prier, tu pries trois fois. Pourquoi tu pries? Ça sert à rien, n'aie pas peur. Mais il faut prier parce que Dieu t'a demandé. Dieu préserve. Bien des vues comme ça. Au point que Rav Sibrasisol pose la question, pourquoi est-ce qu'on prie? Puisque Dieu, de toute façon, il sait mieux ce dont tu as besoin que toi-même. Il t'aime plus que tu t'aimes toi-même, dit-il, et il a tous les pouvoirs, donc il va te donner ce dont tu as besoin. Qu'est-ce que tu pries? Il répond la réponse qui répond, c'est pour éveiller la conscience que tout vient de Dieu. D'autres réponses plus sympathiques, que c'est une relation, ou que en réalité la prière te transfigure et que fait que Dieu peut te donner les choses. C'est pas notre sujet, mais c'est très intéressant. On voit que Rav Sibrasisol n'est pas très loin de la pensée que la prière ne sert pas à grand-chose. Parce que Dieu est transcendant. Mais non, nous on refuse cette réponse. Il y a oui une relation possible. Alors maintenant, avoir une relation aussi anthropomorphique. Akadosh Baruch Hu, Anachnu Avim Otra, Dieu, combien on t'aime, j'aime pas ces chansons du tout. Pourquoi? Parce qu'elles dénoncent un sentimentalisme, une sorte de projection anthropomorphique vers Dieu, parce Dieu c'est pas ton copain. Pas de familiarité avec Dieu. Une proximité avec Dieu, mais pas de familiarité. Alors comment on s'en sort? Si tu peux pas avoir de familiarité, tu peux pas l'incarner, tu veux pas qu'il reste infiniment transcendant pour ne pas avoir de rapport avec lui, comment s'en sortir? Et donc oui, je vous disais, excusez-moi, j'ai pas fini la grande question, c'est que d'un côté, tu peux absolument pas savoir qui est Dieu, et d'un autre côté, on te dit, tu dois l'aimer. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tous tes moyens, de toute ton âme, ça vient jusqu'à la mort. Et si on te dit, agenouille-toi devant une idole, ou je te coupe la tête, tu dis, monsieur, coupez-moi la tête. Tu dis, monsieur, c'est qu'une idole, tu t'en fiches, tu n'y crois pas. Agenouille-toi juste pour sauver la face. Non, monsieur, coupez-moi la tête. J'aime Dieu, je trahirai jamais. Attendez, si tu ne t'agenouilles pas devant l'idole, je coupe la tête à ta femme. Je ne m'agenouillerai pas. Poum, coupe la tête à sa femme. Attends, si tu ne t'agenouilles pas, je coupe la mère à ta belle-mère. Là, ça sera moins difficile pour certains. Non. Si tu t'agenouilles pas, je coupe la tête à tes enfants. Je ne m'agenouillerai pas. Oh, comment on peut demander ça à un homme? Et la halakha demande ça à n'importe quel juif! D'ailleurs, la halakha ne demande pas ça à des non-juifs. Il n'y a pas de hibur, il n'y a pas de chiouv, mesirut nefesh, de donner sa vie pour Dieu pour un non-juif. Il peut le faire. Mais il n'a pas d'obligation. Là, le juif, le plus petit juif, le juif qui est ailleurs, qui a jamais lu une Mishnah, qui connaît rien, on lui dit, monsieur, vous êtes un héros, on doit vous couper la tête à vous, votre femme, vos enfants, votre belle-mère en plus, en prime, si vous vous agenouillez pas. Eh ben, il dit, je ne m'agenouillerai pas. Comme l'ont fait des millions de juifs au Moyen-Âge, à l'Antiquité, pendant la Shoah, pendant l'Inquisition, en Espagne, en Allemagne, en France, des villages entiers qui allaient en chantant se jeter dans le bûcher plutôt que d'apostasier. Gloire à Am Israël. Mais comment c'est possible de poser que d'un côté tu n'as pas le droit de savoir qui tu dois aimer, tu dois l'aimer au point que tu l'aimes plus que tes enfants. Mais on, ça marche pas. Mais oui, ça marche. Et comment ça marche? Ben voilà le secret. Le secret, ce que j'appellerais ça le cogito juif. Je ne peux rien savoir de Dieu, c'est vrai. Dieu est tellement transcendant que la différence entre moi et un microbe est infiniment plus petite que la différence entre moi et Dieu. Or, moi, je m'en fiche complètement du microbe. Comment ça veut dire que Dieu s'intéresse à moi? Intéresse étymologiquement, ça veut dire inter-est, rentrer dans l'être. Dieu dans le pain, Dieu crée tout. Il n'y a pas d'intérêt chez Dieu. Alors qu'est-ce que c'est que cette relation? Ben, il y a une seule réponse à ça. Si j'annule tout, que reste-t-il? Une seule chose qui est indéfectible. La base du cogito juif. C'est qu'il m'a créé. S'il m'a créé, c'est que je viens de lui. Si je viens de lui, c'est qu'il y a un lien. Ah, vous allez me dire, ce lien, j'y comprends rien. Vous avez raison, j'y comprends rien. Mais il m'a créé. J'ai pas créé le microbe. C'est la différence. J'en ai rien à faire du microbe parce que je l'ai pas créé. Donc il a aucun rapport avec moi. Il est tellement loin que j'ai plus de rapport avec lui. Mais tu peux être aussi loin que tu veux de Dieu. C'est lui qui a créé non seulement toi et la distance entre toi. Il a tout créé. Donc, tu es lié par le geste même qu'il t'a créé. Et donc en négatif, tu dois comprendre qu'il a créé chez toi du désir, de l'amour, de la crainte, de la peur, du respect, de la révolte, de l'adhésion. Tout ça, ça vient d'où? Ça vient de lui. Donc ça veut dire que ça correspond à quelque chose en lui qui m'échappe, mais qui est profondément lié à ce que je suis. C'est comme un peintre, Werner. On voit très bien... Je sais pas qui c'est Werner, mais quand je vois ces tableaux, je vois des choses, je peux vous dire des choses que je suis 100% sûr qu'il était. Quand je vois la violence des couleurs chez Picasso, je peux vous dire que c'était un violent. Je connais pas Picasso, mais c'était un violent, c'est sûr. Etc, etc. C'est-à-dire la trace de la création, il y a quelque chose qui résonne vers Dieu. Et à l'intérieur de mon âme, de moi-même, comme la source de ma source de ma source, c'est le souffle divin qui a créé. Tout ce qui apparaît en moi est divin. Et donc un lien avec Dieu au plus, infiniment plus intime que même la relation avec mes enfants. Alors c'est vrai qu'aimer, comme nous, aimer les cerises, aimer les lapins, aimer je sais pas quoi, aimer les chiens, c'est toujours porter un affect sur un objet. Là, il s'agit d'une autre forme d'amour. Il s'agit d'un amour qui à rebours. Un amour qui va à l'origine même de la possibilité d'aimer. À l'origine même de la possibilité d'avoir un lien avec toute chose. Et donc l'ultime de moi-même, c'est ce face-à-face avec Dieu, qui est invisible, certes, mais qui est plus présent que toute visibilité. C'est le secret de l'alliance. Koret Brit, pas kosher Brit, dit le gras. Le Gaon de Vilna dit, dans la Torah écrit, couper une alliance, pas nouer une alliance. Koret. Pourquoi? Parce que la vraie alliance, c'est que même quand tu es séparé du visible, tu es avec l'autre à 100%. Si tu es fidèle parce que la personne est avec toi, ça vaut rien. Si tu es fidèle alors que tout nous sépare, c'est que la personne est avec toi même quand elle n'est pas là. C'est ça le destin du peuple juif. Une part de l'éclat divin est avec lui, même à Auschwitz, même si on ne voit plus rien. Et une part de la révélation divine est Israël. C'est pour ça que toute la Torah est en réalité l'histoire d'Israël. Dieu est juif, Kebichol, et des juifs est divin. Pourquoi? Parce que c'est cette alliance. Et cette alliance, elle transcende toute représentation, parce qu'elle est dans l'essence de l'essence de ce que l'âme ressent comme produit, résultat du souffle divin, qui, au cœur même de ce lien le plus fort du monde, nous échappe, et c'est parce qu'il nous échappe qu'il y a une ouverture vers l'éternité, l'infini et l'absolu. Amevin Yavin.
Le cours est terminé. Nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox www.torah-box.com enseignements de judaïsme par des rabbanim différents sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'article. À bientôt.